Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien, bonsoir les amis. Voilà, vous êtes sur le grand rendez-vous de l'immobilier, sur le grand jury de la presse immobilière. Pardon, on a un grand rendez-vous de l'immobilier. Et également, pour ce mois de mars, on est ravis d'être avec vous en direct sur ce troisième jeudi du mois avec un grand témoin qui nous fait le plaisir d'être présent sur le plateau. Elle est présidente du Conseil national de l'habitat et députée de la deuxième circonscription du Finistère. Nous avons le plaisir d'accueillir Anaïg Glemeur. Bonsoir Anaïg.
Bonsoir Sylvain. Merci de m'accueillir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup, beaucoup d'informations, bien sûr, et de questions qu'on a hâte de vous poser sur le logement et plus largement, bien sûr, la fabrique de la ville. Au sommaire de l'émission, on passera bien évidemment par la case météo. Important, avec du bon, un peu du moins bon, et bien évidemment, c'est notre ami Régis Sébille qui va s'y coller, le monsieur Data de Bien Ici. Salut Régis.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien.
Eh ben, je suis ravi que vous soyez avec nous. On a quelques chiffres extrêmement intéressants, notamment sur le pouvoir d'achat, sur le marché, qu'on a hâte de découvrir, c'est ce que vous faites chaque mois avec nous. Voilà, aujourd'hui, voilà, un grand journaliste de la presse immobilière est également avec nous. Il a rejoint le club du grand jury de la presse immobilière le mois dernier. Une maison qu'il connaît bien puisqu'il a été rédacteur en chef de Radio Immo pendant quelques années. Aujourd'hui, il est journaliste chez Immo Week, mais pas que, également pour d'autres numéros de la presse immobilière. Bonsoir Eric Alla.
Bonsoir Sylvain, merci de m'accueillir. Grand journaliste par la taille. Hein.
Ouais. Merci d'être avec nous. Un journaliste très connu dans le monde de la radio également, puisque vous avez très longtemps, dans le groupe de Radio France, œuvré sur
France Bleu. Un petit passé à Radio
voilà.
France.
Ouais, voilà. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Voilà, celui qui nous fait parcourir l'immobilier chaque mois, à la fois dans son journal, mais aussi sur les belles œuvres. Notamment, c'est celui qui nous fait découvrir les très beaux endroits, les très beaux ouvrages architecturaux notamment, d'ailleurs on ne va pas déroger à la règle ce soir, voilà, c'est la plume du journal Le Point pour l'immobilier, Bruno Monnier-Vinard, bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Je ne pourrais pas faire autrement, t'as vu ?
Oui, juste un petit correctif, c'est pas chaque mois, mais chaque semaine.
Oui, chaque semaine, pardon.
Le point est un hebdomadaire.
Oui, pardon. Non, mais quand je disais
on chaque... multiplie les plaisirs par quatre.
Non, mais quand je disais... il n'y a pas un dossier immobilier toutes les semaines. Il y a un dossier en moyenne tous les 2-3 mois.
Il y a une page hebdomadaire consacrée à l'architecture, donc toutes les semaines.
Et il y a un gros dossier.
Et à environ, oui, il y a un dossier environ tous les 2 ou 3 mois, oui.
Voilà.
Résidentiel et tertiaire.
Dans lequel, de temps en temps, j'ai le plaisir de contribuer.
Tout à fait.
Merci, monsieur Bonny. Ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau. On n'aurait pas pu faire une émission sans elle, puisque. Elle est l'une des fondatrices du grand jury de la presse immobilière, vous le savez. Voilà, une grande journaliste qui a œuvré au Monde, qui est à présent maintenant est journaliste indépendante, essayiste, auteur, et toute nouvelle présidente de l'Association des journalistes immobiliers et de la fabrique de la ville, c'est notre amie Isabelle Rey-Lefebvre.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va Isabelle ?
Ben, ça va bien.
Moi, il manquait le mois dernier.
Ben, il faut un petit peu, mais voilà. Sinon je suis assez fidèle quand même.
Très. D'ailleurs, vous êtes avec nous depuis le début. Hein.
Oui.
Quatre saisons déjà
quatre
du grand
saisons,
jury de la presse.
Voilà,
avec notre amie Virginie, qu'on embrasse, Virginie Grelot, du journal Challenge, et bien sûr notre Marie Corderoy, journaliste à BFM Business, qui a sa tranche maintenant, une demi-tranche, mais tous les jours, avec les experts de l'IMO, de 10h à 10h30, dans lequel, d'ailleurs, nous tous, on a l'occasion de passer la voix. Voilà, on l'embrasse bien fort. Un journaliste qui est aujourd'hui un journaliste indépendant, bientôt dans un grand titre, de la presse, qui est avec nous sur le plateau, il nous fait le plaisir. C'est sa troisième, quatrième déjà.
Quatrième ou cinquième,
voilà,
je sais
quatrième.
Pas.
En tout cas, maintenant, voilà, le rond de serviette a été gravé à son nom, avec le look rock'n'roll, moi j'aime beaucoup. Il est avec nous, journaliste immobilier, bonsoir Anthony Donnet.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'inviter.
Et puis, bonne chance également avec une nouvelle aventure qui s'annonce.
Merci à vous.
Bientôt, merci de participer à ce grand jury de la presse. Au sommaire de l'émission, donc, on va voir la météo avec la revue ensuite du grand jury. Vous savez, c'est j'aime pas, coup de gueule, coup de cœur avec nos amis journalistes. Et enfin, le grand débat avec Anaïg Glemeur qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est parti pour la météo de l'IMO.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Régis, mon cher Régis, comment ça va aujourd'hui ? Je suis ravi de vous retrouver pour cette chronique dédiée au marché de l'immobilier, au programme, les signaux de reprise qui sont là et qui sont encourageant, on va même donner un focus chiffré sur cette relance. On va commencer par la reprise qui, quand même, de façon assez sérieuse, pointe le bout de son nez.
Alors oui, tout à fait. En fait, on en a déjà parlé lors de la dernière émission, les signaux de reprise sont là et se confirment. En tout cas, en janvier, sur Bien Ici, on avait un record de trafic avec presque 19 millions de visites et une tendance qui est de l'ordre de 600 000 visites par jour depuis le début de l'année. Ce qui veut dire que les gens sont là, consultent les annonces immobilières, font des recherches, créent des alertes, excusez-moi, et du coup vont jusqu'à contacter les agences, faire des visites et pourquoi pas pouvoir enfin acheter là où on a eu des blocages lors des deux dernières années.
Donc concrètement, c'est l'audience sur les portails est un des éléments détecteurs de la reprise du marché.
C'est la première marche en fait. Ouais, c'est la première marche. On va regarder et on voit ce qui devient possible et surtout dans un contexte où les taux de crédit ont pu baisser et le budget s'améliore. Jusque-là, le blocage des années 2022-2023, il était très très lié au budget et à des prix élevés. Ce déblocage, il commence à se décoincer avec un meilleur budget pour l'achat. Alors que sur la location, on est toujours bloqué.
Alors, phase de blocage, oui, sur la location, et apparemment, ça n'a pas l'air de s'arranger, là.
Alors, ça ne s'arrange pas, mais justement, dans ce déblocage de la transaction, on pourra y voir là une bonne solution pour une première amorce, en tout cas, du déblocage de la location. C'est-à-dire qu'en devenant acquéreur, quand on est primo-accédant, on a tendance à laisser sur le marché, libérer un logement loué,
encore
et du coup retrouver
avoir
un petit peu d'offres là où on n'en a plus aujourd'hui.
Et encore faut-il avoir un peu les moyens. Alors justement, en ce début d'année 2025, les signaux pour la reprise du marché avec enfin un budget adopté, avec deux numéros, c'est 49 et 3. Il y a quoi? Il y a les taux de crédit, il y a le PTZ, il y a quoi? Pour justement aider ceux qui sont en location à acquérir pour libérer un bien à d'autres qui en ont bien besoin.
Alors déjà, on a un taux de crédit qui a baissé par rapport à fin 2023, début 2024, qui est un peu plus encourageant aujourd'hui. On va avoir aussi des efforts supplémentaires de la part des banques, parce que depuis septembre, les banques communiquent beaucoup sur le retour de leurs clients. Un client crédit immobilier, c'est un client sur 20-25 ans, donc forcément les banques jouent aussi le jeu de relancer ce marché-là. Et pour les Français qui veulent acheter, ils se disent, ça y est, j'ai des crédits qui s'améliorent, j'ai un budget qui s'améliore, qui correspond à un prix potentiellement possible, en tout cas, ou dans mes moyens, et je retrouve mon envie. L'envie, elle reste bien là, parce que selon une étude YouGov qui a été faite en fin d'année, on a 34% des Français qui déclarent avoir un projet immobilier à concrétiser en 2025.
Bien
donc
sûr.
On est bien dans une envie d'immobilier.
C'est
derrière.
Très clair. Alors on va entrer dans le concret. Je voudrais des chiffres. Les villes, les moyens, les revenus, état des lieux, budget nécessaire pour vivre dans un, par exemple, un 3 pièces dans les villes françaises.
Tout à fait. En fait, sur la primo-accession, on s'est intéressé d'abord aux 3 pièces, qui est un peu le logement type où on passe traditionnellement de la location à l'achat avec une chambre en plus, ou en tout cas deux chambres, que ce soit pour un bureau ou agrandir une famille.
Oui, la naissance d'un premier enfant,
par
automatiquement,
exemple,
on bascule sur un T3.
Par exemple, c'est un peu le logement de transition entre la location et l'achat. Et sur ce 3 pièces, on a regardé un peu les 20 plus grandes villes françaises, et on est sur un budget moyen de location d'environ 885 € sur les grandes villes françaises, par mois pour un T3.
Sur les 20 premières villes françaises.
Voilà, sur les 20 premières villes françaises, avec un loyer qui peut aller au-dessus de 1 000 €.
Bien sûr.
Notamment dans 4 villes comme Bordeaux, Lyon, Nice et surtout Paris. Mais un loyer qui passe aussi en dessous 800 € en moyenne sur les villes quand on commence à partir au-delà de la 10e métropole.
Si on enlève les 10 premières grandes métropoles, on est tout de suite en dessous de 800 €. Quoi,
on peut arriver juste un peu en dessous de 800 €, oui.
Ouais, je confirme.
Ce qui veut dire que 885 € en moyenne sur ces grandes villes, c'est un budget, si on suit la règle de 3 fois le montant du loyer en termes de revenus, d'un minimum de 2 650 € de revenus nécessaires pour un ménage qui veut louer un 3 pièces aujourd'hui dans les grandes villes françaises.
Et s'il veut acheter, ça lui donne une capacité d'achat de combien ?
Alors, sur l'achat, le budget médian sur un 3 pièces dans ces villes, c'est à peu près 239 000 €. Ce qui veut dire que avec un taux d'emprunt actuel aux alentours de 3% sur 25 ans, c'est une mensualité de l'ordre de 1 133 € sur 25 ans, ce qui veut dire un effort d'environ 250 € de plus par mois pour devenir propriétaire, mais sans apport.
Ouais, et hors frais de notaire.
Et hors frais de notaire, bien sûr.
Oui, surtout que les frais de notaire, comme on le sait, ce qu'on appelle les droits de mutation, ont légèrement augmenté, hein, si on peut dire les choses comme ça. Si certaines régions, notamment les Alpes-Maritimes, ont annoncé qu'ils ne l'augmenteraient pas. Quand on était au MIPIM la semaine dernière, Éric Ciotti est passé par là en disant qu'il avait décidé de ne pas augmenter les droits de mutation. Il l'a fait de façon assez virulente.
Et il y a une réserve aussi pour les primo-accédants en dessous de 250 000 euros, je crois. Et comme on était sur un prix médian des T3 dans ces grandes villes de 239 000 euros, on pourrait encore s'y retrouver sur ces primo-accédants.
Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'on achète pour 239 000 euros. À Paris, on a un toilette amélioré.
Alors ça, c'était la moyenne sur ces 20 grandes villes françaises. Quand on disait tout à l'heure un effort de 1133 euros sur 25 ans à crédit, ça veut dire que pour prétendre à cela, il faut gagner environ 3400 euros par mois pour un ménage qui veut prétendre un T3.
D'accord. Alors, les exemples, donc, loyer médian, 870 euros, soit 2610 euros de revenus mensuels attendus.
Ça, c'est à Angers, exactement. À Angers, on a un loyer médian de 870 euros.
Là, apparemment, je peux me loger correctement à Angers. C'est pas mal, hein.
Alors, le prix médian d'un T3, c'est de 229 900 euros, soit presque 230 000 euros. Ce qui veut dire que pour un loyer de 870 euros, si je fais le calcul assez simple, il faut que je passe à une mensualité de 1090 euros pour pouvoir acheter la totalité à crédit. Néanmoins, si je veux garder ma mensualité de 870 euros, le calcul nécessite un apport de l'ordre de 46 437 euros à fournir, hors frais de notaire toujours, donc c'est un petit peu plus. Et ces 46 000 euros, ça représente surtout 53 mois de loyer, donc quasiment 5 ans de loyer pour pouvoir devoir apporter, en tout cas en tant qu'apport, pour pouvoir garder sa mensualité de loyer comme une mensualité de remboursement de crédit dans un T3.
La bonne nouvelle, on a posé la question à Valérie Létard, qui nous a fait le plaisir de venir sur le plateau au MIPIM, qui nous dit les donations peuvent permettre, dans certains foyers, il faut avoir des parents qui ont quand même un peu d'argent pour le donner, quand même, hein, ce qui n'est quand même pas le cas de tous les Français. Enfin, je suis un peu critique là-dessus, mais quand même. Moi, j'aurais bien aimé que mes parents me donnent 100 000 euros pour démarrer, mais bon, ils ne les avaient pas. Ils avaient même moins que rien. Mais déjà, ça peut, 30, 40, 50 000 euros, ça peut être l'objet. Donc, c'est finalement assez intéressant de le voir. Sur Bordeaux, sur ma conduite, on m'a mis pour faire plaisir à Sylvain. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'aime beaucoup Bordeaux. Loyer médian, 1042 euros, soit 3126 euros de revenus. Faut gagner plus d'argent pour se loger à Bordeaux.
Alors, faut gagner plus d'argent,
à condition de trouver, parce qu'on ne trouve pas de location à Bordeaux.
Alors, on ne trouve pas de location à Bordeaux, mais le prix de vente, il n'est pas si élevé que ça par rapport à une ville comme Lyon, par exemple, où le loyer est quasiment similaire entre Bordeaux et Lyon pour un T3, mais le prix d'achat du T3 à Bordeaux est un petit peu en dessous. On est aux alentours de 305 000 euros, ce qui nécessiterait là, si vous voulez garder votre montant de loyer de 1042 euros par mois et le transformer en mensualité sur 25 ans, ça vous demanderait donc un apport d'à peu près 85 000 euros de base pour pouvoir acheter votre T3.
Ouais, mais il faut avoir un revenu de 4335 euros pour pouvoir emprunter.
Exactement. C'est là où le budget, il reste très très important. Et la notion d'apport...
Soit c'est en couple, ça va, c'est avec un couple, mais tout le monde ne gagne pas 4300 euros.
Alors tout le monde ne gagne pas, c'est pour ça que les communes périphériques de ces grandes villes ont tendance à avoir beaucoup de succès aussi, parce qu'elles proposent des prix nettement moins chers.
Se pose la question de la mobilité, parce que quand on s'éloigne, on s'éloigne aussi de l'emploi.
Alors, on s'éloigne de l'emploi, on s'éloigne en distance et on s'éloigne en temps aussi, c'est surtout ça.
Oui. Alors, à Lyon, ça ne s'arrange pas à Lyon. Hein.
Alors, Lyon, on va être sur, je vous ai dit, un loyer à peu près similaire, on est même un petit peu au-dessus, de l'ordre de 1200 euros, sur un T3 avec un prix de vente de l'ordre de 325 000 euros, ce qui nécessite un apport un petit peu moindre, parce que le loyer étant plus élevé et les revenus pour pouvoir y prétendre sont plus élevés, ça laisse un apport de 71 737 euros minimum si on veut garder ce qu'on paye en loyer mensualité sur ces 25 ans à 3% actuellement.
Alors très rapidement Nice et Paris. Alors Paris...
Je vais juste faire Nice et Paris rapidement. Nice, c'est de l'ordre de 1400 euros pour louer un T3 actuellement sur un prix de vente médian de l'ordre de 390 000 euros.
Quand même. Hein.
Et Paris, on est sur du 2490 euros pour louer un T3 je parle en médian, ce qui nécessite 3 fois de revenus supplémentaires. Je vous laisse faire le calcul.
Ah oui, mais ben là, ça fait des revenus. Non, mais là, voilà. Non,
voilà, mais... on est quasiment à 7 500 €.
Non, mais soyons clairs, il y a des gens qui sont pas, alors pas, on va pas dire riches, parce que ça serait stigmatisé, mais si t'as pas de moyens, tu vis pas dans Paris, quoi.
Voilà, alors, l'apport nécessaire, c'est au-delà de 100 000 € forcément.
Oui, donc, oui. Ou tu vis mal, tout simplement.
Voilà. Ce qu'on retient, c'est que le bon calcul, c'est qu'il faut à peu près 5 ans de loyer d'apport aujourd'hui dans les grandes villes pour prétendre à un T3 et conserver, en tout cas dans son budget, ce qu'on paye en loyer et le transformer en mensualité. Donc l'encouragement des primo-accédants, il doit aussi passer par tous les efforts qu'on peut avoir pour les aider à devenir propriétaires.
Ça peut être très clair.
Je fais juste un dernier petit point pour terminer sur une note positive, et ah ça oui. J'aime bien. On va avoir quelques villes, notamment des villes moyennes qui sont intéressantes, où le loyer médian correspond peu ou prou à l'équivalent d'une mensualité sur 25 ans à 3%.
Ça, c'est bien, ça.
On va avoir Dijon, par exemple, où le loyer médian est de l'ordre de 808 € pour une mensualité sur 25 ans pour un achat à 170 000 € qui correspond au prix moyen du T3 de 806 €. Donc, on est globalement dans la même tendance. Et on va avoir des villes comme ça, comme Dijon, Grenoble, Le Havre, Nîmes ou encore Toulon, par exemple. Si vous cherchez le soleil.
Voilà, Le Havre, où il y a un très bon maire, d'ailleurs, également. Et puis Dijon, voilà, il y a un maire aussi très sympathique, qui est maintenant ministre. Voilà, c'est François Rebsamen, qui nous avait fait le plaisir de nous recevoir, d'ailleurs, à l'époque, à l'Hôtel de Ville. On va réagir avec nos amis plus tard sur ces chiffres, bien évidemment. Merci, Régis. Restez avec nous. On va accueillir, bien évidemment, à votre place, la rédactrice en chef de Radio Immo, qui va venir dans quelques instants. Elle revient de Lyon. Elle a animé la convention de Century 21 avec des très, très beaux plateaux. C'est Bérénice de Villefleurieu qui va nous rejoindre dans quelques instants, juste après la météo. Merci, à tout de suite.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Eh bien les amis, de retour sur le grand jury de la presse immobilière avec notre super invitée du jour qui est sur le plateau, rayonnante. Elle est présidente du Conseil national de l'habitat, députée de la deuxième circonscription,
de la première circonscription
du Finistère. C'est Anaïg Lemeur. Rebonsoir Anaïg.
Rebonsoir.
D'ailleurs une réélection haut la main lorsqu'il y a eu la dissolution de la première assemblée.
Au la main, je ne sais pas, mais une belle réélection, effectivement. Voilà.
Bah, comme quoi, on a ce qu'on mérite. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec nos amis de la presse, Anthony Denet, Isabelle Ray-Lefebvre, Éric Callat et bien sûr Bruno Monivina et bien évidemment notre rédactrice en chef de Radio Immo, Bérénice de Villefleurieu. Comment ça va, Bérénice ?
Bonsoir, ça va et vous ?
Lyon.
Eh bien, c'était intense, très bien.
2500 personnes,
ouais.
Convention Century 21.
Alors, c'est pas moi qui ai animé, c'était Denis Brognard. Hein, mais,
oui, tout à fait. Vous animiez le plateau.
Voilà, ouais. Moi j'avais un plateau, lui il animait les plénières, et nous on avait un plateau, j'étais d'ailleurs avec Jason de la technique, et voilà, et on recevait, bah, on a reçu toutes les personnes importantes du groupe, ainsi que les gagnants.
Vous étiez en régie tout à l'heure, vous avez écouté les chiffres.
Ouais.
Vous confirmez la reprise du réseau Century, qui est aussi l'illustration de la reprise du marché.
Oui, tout à fait. Alors, c'était mon coup de cœur. On commence dans le vif du sujet. Oui, c'était mon coup de cœur parce que voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Déjà, l'état d'esprit qu'il y avait à cette convention. Alors, je parle de Century 21, mais pour moi, c'est un peu tous les agents immobiliers. Hein. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus récent, le plus chaud. Mais grosso modo, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, à la même époque, il y avait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus... il y avait une effervescence qu'il n'y avait pas l'année dernière et tous me disaient que dans leurs agences, alors j'ai interrogé des gens qui avaient des agences dans à peu près toute la France, hein, Pyrénées, Toulouse, Lille, Roubaix, Lyon, Bretagne. Et
ils
tous,
venaient de partout, hein, du
voilà,
Jura.
De partout, ouais. Vraiment partout. Et tous m'ont dit la même chose qu'en effet, depuis la fin d'année dernière et le début de cette année, les acquéreurs étaient de retour. Alors, il y a un attrait vraiment, et pour eux, le seul et quasiment l'unique facteur, c'est vraiment la baisse des taux. Voilà, on va pas se leurrer.
Non, on va être pratique. Non, mais vous avez raison. Hein.
C'est juste
ça
la baisse des taux.
Tout de suite, ça reprend. Hein.
Voilà. C'est mécanique. Et d'ailleurs, Charles Marinakis nous le dit très bien. Hein. Il nous dit, moi, le seul truc qui impacte mon business, et il me dit à chaque fois ça, Bérénice, c'est la baisse des taux. Le reste. Je m'en fiche. Au moins, c'est clair.
Alors, vous avez un coup de gueule, et vous avez raison, je le partage complètement, sur les propriétaires bailleurs.
Oui, mon coup de gueule, c'est les propriétaires bailleurs qui sont à chaque fois stigmatisés, qui sont malmenés, taxés. On a l'impression que c'est un peu la bête noire des investisseurs en France. Beaucoup disent que ça vient de notre président Emmanuel Macron lui-même, hein, qui mise plus sur les marchés financiers que sur la pierre en tant qu'investissement. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour rester factuel, c'est vrai que quand on est propriétaire et notamment propriétaire bailleur, il faut on a énormément de contraintes et puis les avantages diminuent au fil de l'eau. On va en parler pendant cette émission.
Et on en a parlé d'ailleurs aussi avec Valérie Létard, qu'on va revoir d'ailleurs très prochainement, une ministre qui fait l'unanimité, il faut le dire quand même, puisque même si on ne partage pas les idées du gouvernement, Valérie Létard apparaît quand même en faisant l'unanimité. Ça a été le cas, au BIPIM. Je vais citer Stéphane Descartier, que vous aimez bien.
Oui, j'aime beaucoup Stéphane.
Qui dit, le gouvernement essaie de faire rendre gorge à tous les propriétaires bailleurs. Ils étaient 1 million en 1945, 600 000 en 1980, et aujourd'hui, ils sont à peine 400 000. Donc, nous mourrons tous joyeusement, signé Stéphane Descartier. Je voulais lui faire le petit clin d'œil. Mais toi, ça augure quand même du débat. Merci Bérénice, c'est ravi de vous avoir dans le grand jury. Vous n'êtes pas assez souvent, il faut venir plus souvent.
C'est vrai, je vais essayer de venir plus souvent.
On vous a fabriqué un rond de serviette en platine.
Ça tombe bien, j'adore le platine.
Voilà. Merci en tout cas. Éric Callat, le coup de cœur aujourd'hui. Coup de gueule et un coup de cœur en lien avec l'immobilier, urbanisme et politique.
Absolument, parce que je me suis dit, tiens, on a la chance d'avoir sur le plateau une élue de la République. Donc je vais essayer d'axer, et puis le retour du MIPIM, je vais essayer d'axer mes coups de cœur et mes coups de gueule sur ces sujets de l'immobilier et de la politique en même temps. Parce que, alors je vais jouer un petit peu, vous savez, les commères de Hollywood dans les années 20 et 30, il y a une centaine d'années, où on entendait des choses. Alors je ne vais pas citer de nom, j'ai pas envie que Radio Immo ait un procès derrière, mais dans le genre entendu...
On n'en est plus à un près.
Ah oui, mais d'accord, mais bon, on va éviter quand même. Dans le genre entendu, dans les conversations, dans les couloirs du MIPIM, la réaction notamment d'un élu local d'une ville de la région parisienne qui découvre en discutant avec un autre élu local d'une autre municipalité de la région parisienne que des acteurs immobiliers ont décidé, dans la commune du premier élu, dans leur coin, de transformer des friches industrielles ou bureaux vacants sans concertation locale. Alors là, on peut se poser des questions. Et quand, en prime, les professionnels de l'immobilier en question s'en vantent en déclarant avoir court-circuité les élus locaux. Là, c'est carrément, alors notre élu, je l'ai vu s'envoler, un déni, et même encore plus fort dans ses propos, il appelait ça un hold-up démocratique. Dans sa colère, je l'ai entendu dire, les territoires ne sont pas des terrains de jeu pour spéculateurs, les élus de proximité et les habitants doivent être au cœur des décisions, ils se doivent de respecter les processus et les valeurs de la fabrique de la ville durable et à vivre. Alors a-t-il raison de s'insurger ? Moi, je trouve que oui, quand même, dans l'état actuel de la législation, les élus de proximité sont-ils suffisamment concertés ? Une réflexion qui rejoint un petit peu celle de l'objet de mon coup de cœur. Vous avez vu l'enchaînement
Là, c'est du grand art. Hein. Ouais, ça aide de faire de la radio, quand même, hein, faut vous dire. Sacré Eric.
Alors, mon coup de cœur, c'est pour le maire de Cannes, en fait, le président de l'AMF, l'Association des maires de France, David Lisnard, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Ainsi va la France » aux éditions de l'Observatoire. Le livre est sorti pendant qu'on était au MIPIM, vendredi dernier. Alors, coup de cœur parce qu'il nous fait nous interroger et parce qu'il tente d'apporter des réponses en matière d'immobilier. En fait... Ainsi va la France, c'est le titre d'une chronique bimensuelle que David Lisnard avait dans le quotidien L'Opinion. Et donc, dans ce livre, il a décidé de compiler plusieurs de ses chroniques, dont certaines remontent à 11 ans en arrière. Et moi, si je l'ai pris en coup de cœur, c'est parce qu'il ne les a pas modifiées, il ne les a pas réactualisées. Il assume quand il s'est trompé sur certains sujets. Donc, il a laissé tel quel et il persiste. Il assume aussi, bien sûr, quand il a raison. Donc, voilà. Donc, il met une large place quand même dans ce livre à l'immobilier, au logement. Dans une chronique de décembre 2022, il a voulu démontrer que le dirigisme de l'État dans le domaine de l'immobilier a amené notre pays dans le mur, et ça sans mauvais jeu de mots évidemment. Donc il fustige bien sûr Emmanuel Macron, qui en 2017 s'engageait à réaliser un choc de l'offre de logements neufs. Bon, je crois qu'effectivement, c'est un peu raté. Hein, voilà,
C'est vrai, on a tous eu un gros choc.
Ouais.
Choc fiscal, choc en ne trouvant pas de logement. C'était un choc proche de la tétanie. On l'a eu, mais pas dans le bon sens.
Voilà, c'est ça. Oui. Et lorsque je l'ai rencontré, donc c'était samedi à Cannes, David Lisnard est vraiment effaré qu'il puisse exister comme actuellement une crise de l'offre et une crise de la demande simultanée. Il ne pensait pas la chose possible et d'après lui, c'est une chose que l'on a laissé s'installer. Donc, pour lui, il propose des solutions quand même. Il dit qu'il faut redonner du souffle au secteur du logement privé et social. Il faut changer de philosophie, libérer l'acte de construire, faciliter l'accès à la propriété et à la location et faire en sorte que les politiques du logement ne soient plus dissociées de la question de l'aménagement du territoire en coproduction avec les communes et leurs intercommunalités qui doivent être à la manœuvre pour définir les réalités et les besoins locaux. Voilà. En gros, il nous dit aussi, les plus pauvres auront de plus en plus de difficultés à louer un logement digne à un coût raisonnable, et les classes moyennes, qui voient se raréfier l'offre marchande de logements, continueront d'être les sacrifiés d'une politique sociale étatiste aussi inefficace que moralisatrice.
Eh ben, ça a le mérite d'être clair.
Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, on va en parler. Voilà, justement, on va en parler comme le temps, mais vous inquiétez pas. Quand je vois le nombre de notes que rédige notre ami Anaïg, je peux vous dire que le débat va être sympa, parce que l'avantage d'Anaïg Lemaire, c'est qu'on peut débattre de manière franche et directe, mais toujours avec bienveillance. On va citer le titre du livre.
Ainsi va la France.
D'accord, on peut le trouver dans les bacs facilement.
Ah oui,
voilà, Ainsi va la France. On va recevoir.
C'était rigolo, petite anecdote. Là où je l'ai trouvé, donc dans une librairie à Cannes, il était au rayon roman policier. Donc c'était.
Ah oui.
Mais ça n'a rien à voir.
Alors d'ailleurs, dans notre grande pérégrination nationale avec notre ami Marin du Figaro, on fait les clés de la ville, de ville en ville. Donc on sera bien le mois prochain. On sera à Auxerre. D'ailleurs, on sera à Auxerre en mars. On sera à Dax et ensuite on sera à Cannes. D'accord. Avec David Lisnard. Justement, on y sera en plein été. Voilà, on a dit qu'on allait sacrifier pour aller à Cannes en été.
Ah, c'est dur.
Voilà, ça va être extrêmement dur. Merci Eric. Voilà. Alors, notre ami Bruno Monnier-Vinard, il nous réserve toujours quelques très très belles surprises. Voilà, qu'est-ce que vous nous avez réservé, mon cher ?
Alors, une surprise qui est dans l'air du temps, c'est un projet de bureau, un projet tertiaire qui était finaliste au MIPIM Award, justement, de Cannes, selon la grande messe de l'immobilier tertiaire à Cannes.
Ça sent le campus.
Et oui, ça sent le campus à plein nez. Et donc, je vous emmène dans les Hauts-de-Seine, où le géant de l'énergie Engie vient de déménager, en fait, son siège du quartier d'affaires de la Défense, de la tour D2 à la Défense, dans un campus à la Garenne-Colombes.
Donc on va voir les photos.
Donc pas très loin de la Défense, et un pas de côté. Et alors, ce campus s'appelle Harmonie, avec un Y à la fin. Il fait à peu près 100 000 m². Il va accueillir 6300 salariés. Alors vous voyez, c'est une donc on retrouve les codes du moment, c'est-à-dire une architecture horizontale bioclimatique avec beaucoup de terrasses, des espaces verts. On voit des panneaux photovoltaïques sur les toits. Il y a de la géothermie aussi. Il faut savoir que on pouvait pas faire moins pour un géant d'énergie, mais 100% de l'énergie consommée va être d'origine renouvelable, en fait, dans ce campus. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les nouveaux campus, celui-là a déjà son public. L'autre l'a pas encore tout à fait trouvé, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau au campus Arboretum qui se trouve pas loin à Nanterre.
À Nanterre,
voilà,
absolument.
Avec ses.
Qui a un peu de mal à se remplir.
Voilà, c'est ce que je dis, voilà, qu'il n'a pas encore tout à fait trouvé son public, alors que là, pour Engie.
L'avantage, c'est qu'ils transfèrent leurs ressources ici. C'est magnifique. Qui a construit ?
Voilà, et c'est un projet qui était porté par Nexity et Swiss Life. Et voilà, et donc ils sont en train de rentrer dans les murs en ce moment.
Nexity qui d'ailleurs vient d'entrer dans son nouveau siège qui s'appelle Reiwa, où j'arrive jamais à prononcer, à Saint-Ouen, et on va y aller d'ailleurs bientôt pour visiter, il paraît que c'est magnifique. Nouveau siège, nouveau logo, nouvelle identité.
Ah si, j'ai oublié, pardon, de citer les architectes.
Oui, absolument.
Il y a quatre cabinets d'architectes, il y a SCO, SCAU, il y a le cabinet Schex et Morel, et en fait non, ils sont trois, et Art Build. Voilà.
Merci,
on les
Bruno.
Oublie souvent, les architectes.
Vous nous donnez toujours une vision très belle de la ville. Merci encore une fois. Notre chère Isabelle Rey-Lefebvre, la toute nouvelle présidente de l'Association des journalistes immobiliers et du bâtiment, est avec nous. Alors, coup de gueule. J'ai adoré. Alors, les HLM ont vendu près de 12 000 logements contre 8 000 il y a quelques années. Voilà, de moins en moins de ces ventes profitent aux locataires HLM qui n'ont plus les moyens d'acheter.
Ben, vous avez tout dit. En 2023 et 2024, il y a à peu près 12 000 logements HLM qui ont été vendus par les bailleurs sociaux. C'est loin de l'objectif qu'avait fixé à l'époque, en 2018, Juliane Normandie, qui voulait vendre 40 000 logements sociaux. Mais on était plutôt sur un rythme de 7 à 8 000 jusqu'en 2020. Là, on est proche des 12 000. Alors, c'est pas énorme, mais l'Union pour l'Habitat a fait faire des études sur qu'est-ce qui se passait après la vente des HLM. Et c'est quand même assez intéressant ce que les chercheurs ont dit. C'est que jusqu'en 2009, il y avait à peu près 42% des logements vendus qui étaient achetés par les locataires HLM. Aujourd'hui, c'est moins de 30%. Donc, les locataires HLM n'ont plus les moyens d'acheter, même avec une forte décote de 30%.
Et qui achète alors, si c'est pas...
Alors, il y a quand même 30% de locataires HLM. Il y a des primo-accédants, enfin des accédants, et il y a des investisseurs locatifs. Et en fait, ce qui démontre, c'est que assez rapidement, même ceux qui ont acheté revendent avec des plus-values relativement confortables. En Île-de-France, c'est quasiment 50 000 euros, enfin 25 à 27% du prix initial en euros constants. Hein. 18% sont transformés en immobilier, en locatif privé. Ce qu'ils constatent, c'est que finalement... Pourquoi les bailleurs sociaux le font ? C'est parce qu'ils ont été mis sous pression financière avec la réduction de loyer solidarité où l'État leur pompe 1,3 milliard par an pour retrouver des fonds propres. Mais en fait, l'idée étant qu'un logement vendu pouvait permettre d'amorcer les fonds propres pour deux logements. Mais dans les faits, ces processus de vente sont assez longs, ça coûte assez cher parce que on vend des logements vides, donc il y a des logements vides pendant 2, 3, 4 ans dans les résidences, donc ça fait une perte quand même de loyer. Et il démontre que la gestion n'est pas facile en copropriété, que les relations de voisinage s'appauvrissent, les amicales de locataires arrêtent leur activité, la salle commune est fermée, la loge où il y avait de l'aide aux devoirs, etc., la loge du gardien vendue, il y a une individualisation de plus en plus des charges. Et surtout, ce que me disaient d'ailleurs des administrateurs d'Office HLM ce matin, on n'arrivera pas à reconstituer cette offre. C'est-à-dire que c'est du logement qui est perdu pour le logement social et pour le logement abordable, parce que les chiffres qui ont été cités dans Paris, la seule solution pour des serveurs de restaurants, pour des auxiliaires de vie, même pour des infirmières, même pour des professeurs, de se loger en ville, c'est le logement social. Donc moi, je dis, et je vois par rapport à la ville de Vienne, la capitale de l'Autriche, elle n'a jamais vendu depuis 100 ans un seul logement, même démoli.
Ma chère Isabelle, je pense qu'on va avoir un bon débat. Parce que je veux vraiment qu'on profite de la présence d'Anaïs Glemmer. Un Américain à Paris égale aux Américains. Alors ça, Isabelle qui nous écrit un coup de cœur aux Américains de Paris qui sont de plus en plus présents sur le marché. Alors, j'en suis ravi.
Disons que c'est les Américains de Paris, les Américains qui ont un coup de cœur pour Paris. Oui. C'est ce que me disait le patron du groupe Féo. Il voit une clientèle américaine qui a toujours été
Éric Donnet,
qui a toujours été présente. Mais là, les conditions financières pour eux sont magiques. C'est-à-dire que les hauts revenus new-yorkais, Boston, etc., ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté leur pouvoir d'achat de 30%, dit-il, en quelques années. La parité de dollar, euro, etc. Et ils disent, nous avons une clientèle fidèle qui aime Paris. Et il me citait une anecdote intéressante. Il dit, dans les charity dinners, le prix à gagner, c'est souvent une semaine à Paris. Dans deux fois sur trois, un des premiers prix à gagner, c'est une semaine à Paris. D'accord. Alors, ce n'est pas n'importe quels Américains, c'est des Américains aisés, plutôt de la côte Est, à mon avis, plutôt démocrates.
C'est ceux qui ont regardé Emily in Paris aussi.
Oui, c'est ça. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà.
Ou le diable s'habille en Prada.
Mais ça a joué, hein. Non, non, mais c'est vrai, il y a eu un réel impact.
Il y a des faits JO
de cette série. Hein, voilà. Sur,
mais, alors, non, mais... Et, ils ont leurs arrondissements, c'est 5e, 6e, 7e.
Voilà.
Voilà. On ne bouge pas de ça.
Entre 15 et 30 et 40 000 euros du mètre carré. Voilà. Merci Isabelle. On va enchaîner très rapidement avec juste notre ami Anthony. Coup de cœur pour les deux mesures qui entrent en vigueur à partir du 1er avril et qui devraient faciliter l'accès à la propriété.
Oui, exactement. Donc, ça rentre dans le cadre de l'élargissement du prêt à taux zéro, donc aux maisons individuelles et aux zones détendues.
Oui, on est prêt, hein. Ça y est, c'est prêt. Les banques l'ont paramétré.
Pour exactement. Le logement neuf.
Ils sont capables de le faire.
Exactement. Et il y aura normalement deux nouveautés, comme l'a confirmé, donc, à l'occasion du MIPIM, le ministre du Logement, Valérie Létard, qui pourrait, alors c'est difficile de le quantifier en amont, mais en tout cas qui pourrait inciter et aider notamment les primo-accédants à pouvoir financer leurs projets. Alors il y en a notamment un qui est d'ores et déjà proposé par la banque Crédit Mutuel Arkéa, pardon, et qui consiste en fait en une co-acquisition. Donc en fait le Crédit Mutuel Arkéa a lancé l'année dernière un produit qui s'appelle Duo Primo et qui est exclusivement dédié donc à cette co-acquisition. Donc concrètement, le ménage primo accédant, il est financièrement accompagné par le Crédit Mutuel qui acquiert 10% au maximum du bien souhaité par le ménage pour une durée de 10 ans. Et donc à l'issue de ces 10 ans, donc au terme du contrat, le ménage qui voulait acquérir justement le bien peut devenir propriétaire à 100% du bien, ce qui lui permet de pouvoir justement avoir une marge de manœuvre un petit peu plus importante, puisqu'on a parlé tout à l'heure, 10% c'est en général ce que réclament les banques comme apport.
Donc, et puis
en sachant que ça peut même augmenter.
Et puis maintenant, avec l'augmentation des droits de mutation de 0,5%, encore une fois, j'insiste que toutes les régions n'ont pas voulu adopter, mais enfin, ceci dit, il n'y en a que deux hein, qui n'ont pas adopté. Ça compte, hein, voilà. Je veux dire, voilà.
Sachant que les 10%, c'est vraiment le strict minimum. Il y a certaines.
Non, mais surtout quand on sait que les primo-accédants, c'est le ventre mou, le terme n'est pas forcément approprié, mais du marché, qui symbolise aussi exactement la reprise du marché à des promoteurs dont le marché s'est rétréci de moitié. Hein. Quand même le rappeler, voilà. Sur les deux dernières années.
Donc 10%, donc voilà. 20 à 30%, donc voilà, ça veut dire que ce 10% qui est pris à charge dans cette co-acquisition peut être, on va dire, un petit air frais pour les primo-accédants. Et il y a une autre mesure. Donc,
alors la deuxième mesure, c'est laquelle ?
La deuxième mesure, c'est le démembrement, donc, qui est un petit peu à l'image du leasing dans le secteur de l'automobile, pour ceux qui s'y connaissent, et qui permet donc à un fonds immobilier d'acquérir un logement à hauteur de 50%. Éco-acquéreur.
La nue propriété.
Exactement.
Donc, et
la nue propriété et l'usufruit.
Voilà, absolument.
Alors en sachant que le ménage qui souhaite acquérir le bien acquiert déjà 50%. Donc il est quand même copropriétaire à hauteur de 50%.
Bien sûr.
Il a la jouissance du bien sur une durée maximale de 25 ans. Et à l'issue de ces 25 ans, donc il aura eu 25 ans pour épargner sur les 50% restants, quand on a vu les prix tout à l'heure. Sur un bien,
c'est
par exemple,
c'est un moyen intéressant d'acquérir la propriété de manière différente, mais aussi d'épargner.
Exactement.
Hein, en vue de sa retraite. C'est un peu dans le fonctionnement du BRS, vous savez, la dissociation entre le bâti et le foncier, qui permet à des personnes d'endiguer d'ailleurs. Quelque chose qui est très cher à notre amie Isabelle, c'est la spéculation immobilière. Donc, halte à la spéculation immobilière grâce au BRS et à ce titre de fonction.
Et donc, concrètement, sur un bien à 300 000 euros, c'est 150 000 euros qu'on paye et on a 25 ans pour épargner, essayer de mettre de côté pour les 150 000
c'est
euros.
C'est une façon de faire ce qu'on appelle de l'épargne inversée.
C'est ça.
Finalement. Donc, c'est une très bonne chose.
Merci. On va voir après ce que ça va donner derrière. Mais en tout cas, les mesures sont là et ça peut permettre en tout cas de débloquer certaines situations.
Merci Anthony Denet. Et d'ailleurs, tous ces éléments sont d'ailleurs maintenant sur la table pour pouvoir faire réagir et débattre avec notre invité. C'est le grand débat tout de suite.
Le grand jury de la presse immobilière. Le grand sujet.
On poursuit nos échanges. Anna Iglemer, vous êtes députée de la première circonscription du Finistère, vous êtes la toute nouvelle présidente du Conseil national de l'Habitat, vous avez succédé à Lionel Kos, député des Landes. Vous avez de la chance, vous avez une loi qui porte votre nom, voilà, qu'on appelle la loi Lemer, d'ailleurs, qui vous a valu d'ailleurs beaucoup de volets de boucliers de certaines plateformes qui ont dit que, voilà, grâce à Anna Iglemer, nous sommes morts, voilà, on n'existe plus, etc. Vous avez eu cette chance inouïe d'arriver finalement au bout d'un très long processus à enfin rétablir un équilibre entre la fiscalité de la location que j'appelle nue, vide, et de la location saisonnière, enfin un rééquilibrage fiscal. Je fais peut-être un peu un raccourci.
Oh oui, parce qu'on n'en est pas là et c'était une loi qui portait surtout sur une boîte à outils qu'on donnait à disposition des maires. La fiscalité était un argument supplémentaire, mais qui était plutôt le pied dans la porte pour qu'on aille plus loin sur la fiscalité locative à
terme.
Mais
ça a marqué les esprits, parce que c'est ça qu'on a retenu, oui. Effectivement, sur l'équité fiscale. Vous avez rétabli une forme d'équité fiscale, on peut le dire.
Au moins une volonté d'y arriver, parce que l'instant, on n'a pris que le petit bout de on a tiré sur le fil, mais on n'a pas déroulé encore la pelote.
Alors, dès que vous avez pris vos fonctions, donc en tant que député et maintenant en tant que président du Conseil national de l'habitat, vous avez pris à bras le corps toutes les problématiques du logement. Notamment, vous n'avez pas hésité il y a 3 semaines à interpeller Valérie Létard à l'Assemblée nationale sur les faux DPE, les DPE frauduleux. Il y en a plus +1 300 000 sur 8 millions de DPE indiqués. Vous êtes vent debout, effectivement, aussi pour rétablir justement une justice en termes de logement pour les Français. Bien évidemment, c'est une de vos principales préoccupations, l'accès au logement, mais l'accès au logement pour tous et dans tous les territoires. Vous êtes très souvent sur les plateaux, vous êtes kinésithérapeute de formation et très tôt engagé dans la vie publique et vous êtes natif de Quimper. On est ravis de vous avoir. J'ai envie de vous poser cette première question, Annaïg Lemeur. Quand vous entendez tout ce qu'ont débattu nos journalistes ici présents, dans l'ordre, vous dites quoi ? Vous dites que ça sent mieux, qu'on repart sur une vraie politique du logement, que grâce à ce nouveau gouvernement, on est plutôt bien parti. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Sans langue de bois.
En entendant tous les sujets, je me dis, c'est bon, ça phosphore, tout le monde est en train de discuter, on trouve des sujets émergents, il y a un petit peu une diversité des thématiques, alors qu'avant, on était simplement dans la morosité. Donc on voit qu'il y a des solutions qui émergent, des possibles en fait qui arrivent. Donc enfin, effectivement, on arrive à sortir un petit peu de cette notion de crise uniquement en se disant, mais maintenant, il faut être force de proposition et d'action. Donc soit en termes d'innovation, comme on l'a vu sur des nouveaux bâtis, mais aussi en termes justement de dispositifs qu'on pourra mettre en place, notamment sur les primo-accédants. C'est quand même quelque chose de plutôt positif pour l'instant que de se dire qu'on a quand même des propositions qui sont peut-être que quelques-unes, qui n'ont pas résolu toute la crise, mais elles sont sur la table et elles sont prises en fait en main par les politiques aussi pour les rendre possibles. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Et puis on entend que derrière, les banques jouent leur jeu aussi, qu'on arrive quand même à accéder, à se dire que demain, on va tous tenter ensemble de libérer ce logement qui, pour le rendre accessible et surtout abordable à tous. Parce que l'objectif, c'est certes d'avoir du logement, mais qu'il soit abordable, durable, de bonne qualité, etc. etc. Donc on voit qu'en fait, il y a une diversité de sujets qui sont là. Et maintenant, il faut s'en saisir. Donc, je suis plutôt ravie de ça. Ça fait longtemps qu'on attendait. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer, quand j'entends un petit peu les discours, on ne peut pas ignorer non plus qu'on a eu quand même une crise Covid aussi qui nous a quand même bloqué, gelé les situations, qu'elles soient notamment au niveau financier, mais aussi sur des approvisionnements, des coûts de matériaux qui avaient augmenté, des difficultés autres aussi de mode de vie qui ont complètement évolué à la suite ou qui ont été révélateurs au moment de cette crise. Donc, il y a une prise de conscience que le logement, c'est quand même quelque chose de crucial au sein de la vie des Français, qu'il y a eu un frein à un moment. Je suis contente d'entendre qu'il y a encore de l'envie et on a tous envie que ça s'améliore parce que avoir un toit sur sa tête, je pense que ça reste quand même une façon d'avoir une assurance aussi pour pouvoir du coup s'épanouir.
Réaction de nos amis journalistes. Qui veut prendre la parole ?
Moi, je veux bien juste, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, à savoir ce contre quoi s'insurgeait David Lisnard, qu'il y a à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande actuellement. Quand on regarde l'immobilier, c'est quand même du temps long. On n'est peut-être pas au pic de cette crise aujourd'hui, à savoir de l'offre et de la demande. On va rentrer dans une période d'élections municipales. On sait que pendant les élections, pendant les campagnes, élections municipales, l'année qui précède, les maires bâtisseurs, même si la ministre Valérie Létard a dit à votre micro, Sylvain, qu'ils allaient mettre en place des mesures pour les maires bâtisseurs, les maires, pour être réélus, ils construisent pas trop. Alors comment on peut avancer en étant sûr que... Alors il y a des envies, vous avez raison, Annaïg Lemeur, de le dire, mais est-ce qu'à un moment donné, faut pas accélérer les choses ? Enfin, je sais pas comment, mais...
Voilà, je sais pas comment, mais je pense qu'il y a quand même dans l'opinion publique, en global, il y a quand même une pression qui a été forte ces derniers temps pour dire qu'il faut bâtir, il y a des difficultés réelles liées au logement. Je pense qu'un maire qui se présente ne pourra pas ignorer ce sujet. Au bout d'un moment, il y a quand même une demande citoyenne que d'avoir du logement pour tous. Donc, s'il passe à côté de ce sujet, si demain, il se positionne pas comme maire bâtisseur, en plus avec les possibles qu'on va lui offrir prochainement, au bout d'un moment, il va passer quand même il sera éloigné du sujet majeur. Mais je pense qu'on ne peut plus se dire que dans la situation actuelle, vu les changements d'usage, etc., vu les besoins de chacun, entendu, vu le prix du logement, s'il n'aborde pas ce sujet, s'il ne se positionne pas justement comme un maire bâtisseur, certes, mais un maire aussi avec une notion de durabilité, d'innovation, etc., il va passer à côté. Il y a un moment où on ne pourra pas dire que demain, il ne peut pas bâtir, il ne peut pas rénover, il ne peut pas être à la conquête de friches. Enfin voilà, tous ces sujets-là, maintenant, ils sont sur la table. Donc s'il passe à côté, pour moi, c'est quand même une erreur stratégique.
Il va falloir qu'il explique bien ou qu'elle explique bien à ses futurs
électeurs. Exactement, parce que nous, les gens qu'on reçoit dans nos permanences, ce sont à la fois des gens qui sont en manque de logement. C'est-à-dire qu'il faut être très clair que le discours qu'on avait avant de dire ben, « je veux bien du logement, mais pas en face de chez moi », s'inverse complètement, parce que là, la difficulté, elle va au sein de tous les foyers, même des habitants propres de la ville qui ont besoin de logement pour l'avenir. Donc, que ce soit du logement jeune comme du logement aussi senior.
D'où l'intérêt des concertations, des réunions de quartier. Pierre Urmic, à Bordeaux, a carrément créé un car régie avec une petite estrade où il va de quartier en quartier faire des consultations. Si on arrive à concerter les populations à l'échelle du quartier, ils comprendront mieux, il y aura une meilleure acceptation des travaux. Parce qu'en réalité, les maires, ils ont simplement peur de perdre leur mandat en mettant des grues partout. Donc on le sait, maire battu, maire bâtisseur.
Oui, mais alors, ça a un peu changé quand même, hein. Moi, les derniers maires que j'ai reçus en interview m'ont tous dit, nous, la première problématique, c'est ce que vous dites, madame la députée, c'est des habitants qui n'arrivent pas à se loger. Avant, c'était l'emploi. Là, aujourd'hui...
C'est le logement.
C'est le logement, mmh. le premier problème des habitants de toutes les communes en France, enfin, en tout cas des maires que je reçois. Et la deuxième chose, c'est que récemment, j'ai interviewé Olivier Salleron, donc le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, qui, lui, m'a dit qu'il n'était pas du tout inquiet avec ces élections municipales, justement parce que les maires avaient globalement ça en tête. Alors je sais pas si c'est lié aux annonces de la ministre du Logement ou à ce que vous dites, qu'il y a eu pas mal de...
Une aide aux maires bâtisseurs, voilà. qui est pas énorme ici, mais déjà c'est un geste. 100 millions d'euros d'aide aux maires bâtisseurs, c'est déjà un premier pas.
Oui, et puis elle va au-delà, c'est-à-dire que les aides qui vont être allouées, elles vont aussi déterminer justement les services publics qui vont aller de pair, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi bâtir des écoles derrière, partie des services, on parle beaucoup plus d'aménagement
juste,
de territoire.
Bien sûr.
Et derrière, on parlait d'emploi avant, mais on parle toujours d'emploi quand on parle de logement. Parce qu'un logement, c'est, actuellement, il y a quand même des employeurs qui se retrouvent face à des candidats qui refusent faute de logement, qui refusent l'emploi. Donc derrière, c'est aussi un levier économique pour leur territoire que d'avoir du logement à disposition.
Ils étaient 17% en septembre 2024 à avoir renoncé à un travail dans les grandes agglomérations à cause des défauts de
Donc
de
tout est imbriqué. On ne peut plus isoler l'un par rapport à l'autre.
Bruno Monimina, vous voulez intervenir?
Oui, moi j'ai l'image d'un bateau. Un bateau qui serait pris dans une tempête. Et là, vous nous dites, oui, on va donner un principe de réalité, la mer ça mouille, hein, et on va donner des petits coups de barre à droite et à gauche. Mais vous ne croyez pas qu'il faut changer complètement de cap? Parce que là, on va vraiment arriver sur les récifs. Et les messages politiques au plus haut niveau, ils ont été, n'ont pas été concrétisés, hein, des slogans, etc. Et là, comme pour le... Enfin bon, j'ai tellement de questions que je voudrais vous poser, mais là, on parlait de 1,3 million de DPE frauduleux. Mais là, il y a eu un communiqué par rapport à ma prime Rénov, de la ministre.
Oui, c'était...
44 000 dossiers frauduleux qui représentent un montant, je crois que c'est 260 millions d'euros,
absolument,
etc. On a ouvert des boîtes de Pandore, en fait, qui sont extrêmement dangereuses. Et moi, je suis un peu plus pessimiste. En effet, on sent qu'il y a un frémissement, que le driver, c'est la hausse des taux, etc., par rapport aux transactions. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui serait pris les pieds dans un filet et qui essaye de se débattre, alors que ça mériterait peut-être d'avoir des décisions plus franches et un cap plus franc.
Alors c'est notamment sur les notions de DPE, c'est un sujet qu'on va aborder demain avec la ministre, parce que effectivement elle s'est engagée pour contrôler ces fraudes et pouvoir justement sanctionner, parce qu'on peut pas laisser penser que le DPE génère uniquement des frauduleux. Il y a quand même des DPE qui sont aussi cadrés et qui fonctionnent très bien. Ils sont nécessaires dans un objectif environnemental. Quand on voit les difficultés que l'on a actuellement au niveau énergétique et des changements climatiques, on ne peut pas dire que le DPE n'est pas utile. Maintenant, il faut encadrer effectivement une profession qui est naissante et qui a besoin d'un cadre pour pouvoir justement contrer ces effets de bord qui sont péjoratifs pour la profession et qui sont aussi qui peuvent freiner l'envie des gens sur des notions de confiance qui ne sont pas là. Donc du coup, je suis d'accord avec vous. Sur d'autres sujets, effectivement, on sent que la mer, elle est houleuse et qu'on va d'un côté de l'autre, je suis d'accord avec vous. On avance un petit peu, mais tant que le bateau avance, c'est déjà ça. On ne va pas à reculons. Maintenant, il y a une nécessité, je pense, de coordonner en fait l'ensemble des volontés politiques pour mener justement une vraie réforme. La réforme, j'ai proposé notamment une réforme de la fiscalité qui refaisait un peu une mise à plat,
oui,
justement, de la fiscalité à la faveur du logement abordable et du logement de longue durée. C'était une proposition que j'avais mise sur la table suite à une demande de rapport d'Elisabeth Borne. C'est quelque chose qui fait un peu un reset de tous les notions, en fait, initiales, qui étaient d'un raisonnement qui opposait le nu et le meublé, alors que moi, je considère qu'il faut plutôt raisonner courte et longue durée et être à la faveur de l'allocation de longue durée et changer complètement les critères fiscaux sur cette notion-là. C'est-à-dire donner plus d'avantages à quelqu'un qui loue à long terme un logement de bonne qualité. C'est quand même l'objectif. Donc, effectivement, la mer peut être houleuse, mais à la fois, la mer, elle est active et elle permet, en fait, d'avoir une diversité de sujets qui viennent nous heurter quand on est dans le bateau. Il faut aussi les prendre en compte. Donc, à un moment... Je ne suis pas forcément... moi, je suis bretonne, je ne vois pas forcément la mer houleuse comme une contrainte, toujours. Je pense qu'il faut aussi l'accepter, cette contrainte de... Mais le français a besoin pour plus de confiance et de sérénité, notamment quand il se positionne en investisseur, que d'avoir, en fait, un cap vraiment défini et, effectivement, une mer un peu moins agitée que celle qu'on a connue. Je suis d'accord avec vous.
Isabelle ?
Ben, moi qui ai suivi la politique du logement depuis très longtemps, je sais que quand même une politique nationale, ça compte et ça a produit des effets.
Ah oui.
Et là, effectivement, depuis Macron, on a une politique du logement qui est complètement délétère et qui a coupé tous les moteurs du logement, que ce soit les taux, que ce soit l'investissement locatif. Il nous faut une politique nationale du logement. Et en plus, il peut y avoir des consensus politiques de droite et de gauche sur cette politique. Ce que je trouve intéressant dans votre loi, c'est qu'elle confie en partie les clés aux élus locaux. Et heureusement qu'on a les élus locaux qui, eux, font. Beaucoup font. Et il faut achever votre loi avec... l'équilibre fiscal. Il faut un statut du bailleur locatif. Je sais que Valérie Létard a confié une mission là-dessus. Mais il nous faut un portage politique fort au niveau national. Il faut aider les élus à faire. Et là, on n'a pas encore ça. Et ça, ça manque terriblement.
Effectivement, la confiance au territoire est importante parce qu'en plus, il y a une disparité en fonction des territoires, des besoins en logement. Il faut être cohérent par rapport à chaque logement et à chaque territoire en fonction de la dynamique, notamment économique, des territoires, mais pas que, en fonction aussi de l'aspect social des territoires. Il y a une notion sociale qui est importante aussi où chacun ne peut pas forcément accéder aux biens, comme on a entendu tout à l'heure, aux valeurs de location qu'on a entendu tout à l'heure. Effectivement, des fois, en fait, c'est un frein justement à cette mixité qui est tant voulu et si important, notamment en termes d'emploi aussi. Donc, il y a une confiance aussi envers les maires vis-à-vis de la politique du logement. Donc, je pense que les maires, par exemple, font de belles propositions, font des belles remontées sur les territoires. Maintenant, à nous de les entendre aussi et leur faire confiance sur ce point-là.
Vous leur avez quand même coupé les vivres. Hein. Enfin, vous, le gouvernement, la taxe d'habitation...
vous êtes dans la majorité présidentielle.
Oui.
Donc forcément, oui, c'est vrai. Il faut le dire. On avait cru à l'époque que la compensation à l'euro près se ferait, mais quand on interroge les élus, ils retrouvent pas leur qui. Il y a des distorsions sur les dotations qui sont assez ahurissantes. Et je cite Jean-Philippe Bugoin-Clément, qui est le vice-président de la région Île-de-France, maire d'une petite commune de 15 000 habitants. On est à l'os, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Et c'est vrai que ce qui a achevé, finalement, il faut bien se mettre ça dans la tête, de l'élu local, qui est un mandat hyper intéressant, parce qu'ils sont au contact du quotidien, vous le savez, c'est plus aucune marge de manœuvre, on est presque dans une volonté presque schizophrène de ne plus vouloir ou d'avoir peur d'accueillir une nouvelle population sur la commune. Parce que qui dit nouveaux arrivants dit structure, dit mobilité, dit gymnase, école, crèche. Ils n'en peuvent plus. Et il y a aussi une autre chose sur laquelle je voudrais vous faire réagir, vous, en tant que parlementaire, c'est que ils disent quelque chose qui est finalement assez prosaïque. Bon, c'est très français de le dire. Mais on a un État qui nous donne des leçons de gestion. Alors que nous, on nous enjoint d'avoir un budget à l'équilibre. Je n'ai pas parlé des investissements. Je parle du budget qui est à l'équilibre. Les investissements, c'est un autre sujet. Et on a un État qui est chroniquement déficitaire. De qui se moque-t-on dans ce sens-là ? Et c'est vrai que
comme
ce qu'il
n'a jamais été déficitaire,
oui,
quand même.
Oui. Alors, comme jamais.
Le gouvernement nous a mis dans une panade budgétaire qu'on n'avait jamais vue.
Et c'est vrai que depuis
vu.
Le premier mandat d'Emmanuel Macron, nous avons un glissement
la gauche
qui très clair
ça, qu'on en a
dans une tentation jacobine qui est assez rare. Et pour la première fois dans notre pays, depuis la naissance de la Ve République, nous avons vécu une crise institutionnelle que jamais quelqu'un n'aurait pu imaginer dans ce cadre-là. Il faut quand même aussi s'en rendre compte. Tout est politique en matière de logement, et on le voit de plus en plus. Est-ce que le gouvernement pourra aussi assumer ce premier mandat, ces politiques qui ont été menées en disant « Ok, on s'est peut-être trompé ». Bruno Le Maire l'a dit. Il l'a dit de façon assez ahurissante, même assez surréaliste, en réunion, en disant « J'ai pas tout fait bien, s'il y a une chose que j'aurais pu réparer un peu mieux, c'est le logement, j'y étais ». Il le dit comme ça, ça a l'air quand même ahurissant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui.
On aimerait entendre de dire « Ok, bon, on s'est un peu trompé, le choc de l'offre, vous l'avez pas vu, vous avez eu plutôt un choc électrique, on va essayer de réparer ».
Alors nous, on a tiré par la manche plusieurs fois, hein, je le dis clairement, je veux dire, en tant que député, on n'est pas au gouvernement, hein, donc du coup, notre rôle, il est aussi d'amener, en fait, les discussions, notamment sur le logement. On entend la taxe d'habitation, je peux entendre...
Vous comprenez ça,
Ah bah, bien sûr,
il y a un vrai sujet.
On peut l'entendre, le logement, en fait...
La taxe d'habitation, c'est 20 milliards par an.
Oui, alors après, elle a été compensée pour certains territoires.
Mais oui,
certains ne se plaignent pas forcément, parce qu'elle a été compensée par des TVA quand même dynamiques qui ont donné par territoire des dotations. Quand moi, je suis élue à la ville de Quimper, ils ne se plaignent pas forcément au niveau fiscal de la différence en fait, entre les
deux. Dans votre commune, c'est pas qu'à toutes les communes.
On a 60 milliards, il y a 20 milliards par an.
Par contre, souvent, ce qui reproche, c'est que ça a coupé un petit peu le lien, en fait, avec le citoyen, notamment sur cette notion de fiscalité. Ça, on peut l'entendre, qui du coup, en fait, ça a coupé le lien qu'ils avaient, en fait, avec une fiscalité locale. Pour moi, je trouve qu'il y a un outil qu'on n'a pas forcément sollicité, qui était les autorités organisatrices de l'habitat, qui auraient pu être justement cette force de péréquation, qui aurait pu justement harmoniser les territoires, parce qu'il y a des territoires, comme vous l'avez dit, qui se retrouvent avec des populations qui viennent, mais pas avec une structuration justement au niveau des services publics et qui du coup s'endettent à côté sur de l'investissement, et alors qu'on pourrait faire des notions de péréquation. Moi, je le vois très bien sur un territoire qui capte de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui capte de la taxe de séjour, etc. Et de l'autre côté, en rétro-littoral, on se retrouve avec des territoires qui doivent compenser notamment sur de l'habitat social, notamment. Et qui, là, ne touchent pas de taxe d'habitation parce que c'est de l'habitat social, etc.
Non,
mais par contre, il faut mettre des services...
La taxe d'habitation a été supprimée.
Mais sur le social. Et du coup, ils se retrouvent du coup en difficulté aussi pour pouvoir créer des services adéquats en fonction de cette population qui arrive sur ce territoire. Donc effectivement, il y a à repenser effectivement l'ensemble, que ça soit en termes de fiscalité, mais que ça soit en termes effectivement de lien territorial et de faire confiance aux élus locaux.
C'est pire que ça.
Isabelle, on va. Voilà, je voudrais que Anthony réagisse ensuite. Bruno et Bérénice.
Non, je voulais faire écho à ce qu'a dit Bérénice tout à l'heure concernant l'investisseur. C'est vrai que les investisseurs institutionnels ne peuvent pas tout en France, mais malheureusement, en fait, aujourd'hui, je vois pas réellement d'avantage à être un investisseur privé, c'est-à-dire que quel que soit le profil d'une personne, qu'elle dispose de voilà, d'argent,
il y a quasiment plus d'argent, oui.
Qu'elle le place, peu importe, mais je veux dire, en fait, je vois que des contraintes et je vois zéro avantage à demain aller investir, hormis peut-être un geste social en se disant je vais participer à l'effort de guerre, puisque c'est le terme à la mode, non, mais de dire effectivement on a un véritable sujet par rapport à ça, et si je peux, entre guillemets, investir de l'argent pour acquérir un bien et faire en sorte que des gens puissent se loger, c'est toujours bien. Mais hormis ça, moi, je vois que des problèmes, que ce soit sur l'augmentation de la taxe foncière, que ce soit sur l'augmentation des normes. Alors, effectivement,
la fiscalité.
Non, mais il y a des choses qui sont voilà, positives, notamment sur la transition écologique. Mais le problème, c'est que c'est quand même... Enfin, il y a quand même énormément de contraintes, ça coûte cher. On voit beaucoup d'investisseurs qui justement cherchent à se débarrasser le plus rapidement possible des biens dans lesquels ils avaient cru à un moment, il y a 5 ou 10 ans, parce que c'est plus du tout tenable et qu'ils se disent que de toute façon, voilà, vu le contexte, il vaut mieux s'en débarrasser, essayer de pas trop perdre d'argent par rapport à ce qu'ils avaient investi, mais en tout cas ne plus être engagé.
On bascule vers une rentabilité négative. Moi, j'ajouterais sur ce que dit Anthony, qui est très juste, c'est que 62% du parc locatif privé abrite des populations qui seraient éligibles au logement social. On a besoin de ces petits bailleurs privés. Et c'est vrai que c'est cette variable, justement, dont parlait Bérénice tout à l'heure.
Et s'il n'y a plus de bailleurs privés, les institutionnels...
Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? Alors, je sais qu'on a une commission qui se crée, mais quel est votre avis sur cette question qui est cruciale ?
Mais de toute façon, on ne peut pas construire un parc social sans avoir un parc privé à côté. Il y a un moment, les deux s'équilibrent, que ce soit pour un bien qui soit mixte, ou même, il faut qu'on ait aussi, dans le parc privé, des biens à prix abordable. Il y a un moment où c'est nécessaire, utile et indispensable. Parce qu'on ne va pas loger, effectivement, dans le parc social, 70% des personnes qui sont éligibles. C'est, pour l'instant, on n'a pas construit suffisamment, peut-être, mais est-ce qu'on a volonté à faire que tout le monde bascule dans un parc social ? Il y a un moment où ça change de modèle aussi complètement au niveau du pays. Donc, il y a un moment où il faut effectivement aider les bailleurs justement à investir. Alors, aider comment ? Il y a un, être assuré, parce qu'on entend aussi beaucoup de gens qui nous disent « Moi, je n'investirai pas peur du risque d'impayé, c'est l'une des raisons qui est souvent mise en avant.
Et ils n'ont pas la loi avec eux en plus.
Voilà, enfin ils n'ont pas la loi, on a quand même avancé sur la loi, mais maintenant, est-ce qu'il faut la durcir, pas la durcir ? Vous avez d'un côté, ils vont vous dire oui. Voilà, il faut surtout l'appliquer déjà dans un premier temps. Il faut vraiment être réaliste sur ce côté-là, c'est que la priorité des gens, c'est être rassurés. Et là, ils ne sont pas rassurés quand ils confient leur bien à une personne. Ils ont la peur, en fait, du risque d'impayé, de la dégradation du bien. Deuxièmement, il y a toute une réflexion à mener sur la notion spéculative d'un bien. Est-ce qu'un bien a une vocation spéculative ou est-ce qu'elle a une vocation patrimoine ? En fait, depuis des années, le bien a basculé avec une nécessité de rentabilité du fait notamment de l'ensemble des niches fiscales qui étaient adossées. Donc ça a changé un petit peu la dynamique et de comment on considère le bien dans notre
portefeuille. Donc
notre
c'est spéculatif.
Il y a une part de spéculatif.
Non, mais vous avez raison. Mais je vous le dis, la décorrélation du prix d'achat au mètre carré par rapport aux revenus, parce qu'il devrait y avoir quand même une courbe relativement parallèle quand on voit l'évolution des prix et l'évolution des revenus, c'est assez impressionnant.
Et
je
ne
parle pas
dites,
des prix à la location.
Tout à l'heure, vous me disiez qu'on est passé de 1 million à 400 000 bailleurs.
Ah ouais, à peine,
maintenant, absolument. Il faut savoir aussi dans les 400 000 combien de biens sont gérés par investisseur.
Alors, moi, c'est 1,1 bien.
Et avant, c'était 1,1, alors, c'est pas beaucoup non plus, je suis d'accord avec vous.
Alors,
voilà, c'était juste pour avoir cette précision.
La statistique, c'est 1,1 de détention du bien, mais là où vous avez peut-être en partie raison, c'est que la concentration de la détention immobilière a fait naître des multipropriétaires. Et en réalité, 20% vont posséder une partie très importante. Le problème, c'est que c'est très hétéroclite. Sans compter qu'il y a les fameux zinzins, vous savez, les investisseurs institutionnels, qui, fut une époque, avaient déserté le logement et sont revenus massivement. Et donc, finalement, c'était un petit peu open bar. Mais aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui a aujourd'hui plus aucune appétence financière. Il faut comprendre que les investissements qui sont liés au logement doivent être effectués. Ma prime rénov' n'est pas éligible pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Il y a un vrai sujet de financement. Et ça rend l'obsolescence, effectivement, du bâtiment. Le problème, si vous voulez, Le Meur, c'est qu'au même moment, vous avez 2,5 millions de Français mal logés. Et que ça ne devient pas tolérable. Voilà,
on est tous d'accord. Au bout d'un moment, il faut qu'on trouve ensemble des solutions.
Ça
mais il y avait peut-être...
Oui.
Non, ce qui m'interroge aussi, c'est par rapport au terme de spéculation, c'est que quand on parle de finance, c'est pas un gros mot d'être dans une spéculation, mais quand on parle de logement, tout de suite, ça prend des proportions de dingue, alors que, enfin, qu'il y ait une part de spéculation, évidemment, si quelqu'un achète un logement, non pas pour y vivre lui-même, mais pour y faire un investissement locatif et y loger des gens, c'est forcément parce qu'à un moment, s'il y a une revente derrière, il va forcément vouloir gagner de l'argent.
Moi, j'ai pas mis de péjoratif dans mon propos. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de logement, et spécifiquement de logement, ont adossé justement ce terme de spéculation, comme si c'était presque quelque chose qui était un petit peu... infamant, où on jouait un petit peu avec le alors qu'en fait, ouais, quand on parle de spéculation avec des objets financiers ou ce genre de choses, tout de suite ça...
Vous voulez dire qu'on fustige les propriétaires négative. Comme des salauds de capitalistes qui profitent du...
Bah non, mais je trouve que
le propriétaire aussi est aidant pour avoir un locataire qui puisse avoir aussi un logement. Il faut voir l'équilibre.
On a des propriétaires
tout est dans l'équilibre. On loge des gens, ouais. Et pas que des touristes,
une question d'usage, en fait.
Pense que il y a en ce moment une concentration de la propriété privée qu'on n'avait pas, à bas bruit. Le taux de propriétaires recule. On était à 57,8 à 2014, on est à 57. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même des centaines de milliers de ménages qui n'ont pas acheté.
Très juste.
On voit par contre le taux de résidence secondaire qui augmente plus vite que le nombre de résidences principales. Le maire d'Annecy me dit « Je construis péniblement 1200 logements par an et il y en a autant qui filent en location touristique. » Pareil à Paris. Et donc les résidences secondaires, l'accession à la propriété qui stagne, et l'INSEE a sorti une statistique, et ce phénomène de multipropriétaires, certes, les propriétaires n'ont qu'1,1 logement en moyenne, peut-être, mais ceux qui ont plus de 5 logements, ils font 60% du marché.
Exact.
Et donc, c'est ce que dit l'INSEE. Elle dit qu'il y a 1 million de ménages.
C'est un peu les 80-20%.
Alors moi, j'ai un peu de mal avec les données de l'INSEE. Oui. Hein, parce que quand voit les données sur les logements vacants 1,5 million, c'est pas du tout ça dans le détail. Moi, c'est toujours avec des pincettes, les données de l'INSEE, pour moi.
Ils ont fait un travail extraordinaire, notamment en dépiautant les sociétés civiles immobilières pour voir quel était le bénéficiaire réel derrière. Ils ont dit que 1 million de ménages, 3,5% des ménages, c'est pas beaucoup, qui ont plus de 5 logements et que ces 5 logements locatifs, ça compose 50 à 60% au cœur des villes, Bordeaux, Paris, Lyon, du parc locatif privé.
Et ça, Bérénice, on le savait, ça.
Oui, hors institutionnel.
Oui, les investisseurs vont sur des classes d'actifs, sur des grandes agglomérations, et c'est vrai que 60% est possédé par...
Toute petite fraction accumule du patrimoine.
Après, bon, même ceux qui ont 5 logements, et alors enfin,
oui. Voilà, si oui, le mettre en location, c'est ce que je disais
avant. Non, mais ça démontre une concentration de la propriété qui en a
L'idée, c'est pas de défustiger, c'est de montrer qu'avec le temps et la financiarisation, parce que c'est bien de financiarisation qu'on parle, on prend Charles Marinakis qui dit que le logement, la primo-accession, le logement, c'est d'abord pour se loger. Il a jamais été écrit qu'on devait forcément faire une plus-value. C'est un peu sa doxa. Il a raison sur le principe. Le problème, c'est qu'on a glissé vers une financiarisation de l'immobilier qui s'est décorrélée du revenu moyen. On devrait, quelque part, entendre l'idée qu'un travailleur qui gagne un salaire devrait être en capacité de se loger, vous êtes d'accord ?
Oui, mais là, je pense que pour ça, je pense qu'on parle d'un combat qui n'est pas à mener. C'est sûr qu'il y a eu spéculation. Forcément, les taux étaient inférieurs à 1%. Donc, les prix se sont envolés. C'est un mécanisme qui était logique d'un point de vue macroéconomique. Il y a eu de la spéculation, oui, mais sur plein de choses. Après, je rejoins Anthony. Quand les investisseurs font une énorme plus-value sur le Bitcoin, sur le Nasdaq, là, ça gêne personne. La flat tax, c'est 30%. Maintenant, dès qu'on est investisseur immobilier et qu'on fait une plus-value en revendant un bien, c'est dramatique.
Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas loger les gens.
Non, mais je suis d'accord. Après, d'un point de vue fiscal, un investisseur qui revend son bien sur lequel il y a une plus-value, il est imposé fortement sur cette plus-value. Ce qui n'est pas le cas pour les marchés financiers. Sur un compte titre ou un PEA, quand on fait une plus-value, on n'est pas autant imposé. Voilà, et c'est vrai que c'est pas logique. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur le fameux statut du bailleur privé. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça va donner la même chose. Alors, je suis hyper pessimiste.
Je suis d'accord avec
ça fait des années qu'on en parle. Le CNR, on en a fait tout un pataquès. Au final, la montagne a accouché d'une d'une souris. Il n'y a rien eu. Pourtant, il y avait Véronique Bédague. Enfin, il y avait tout le monde. Donc là, ils nous bassinent avec leur statut de BR privé. Tout le monde veut s'y mettre. Moi, je n'y crois pas du tout. Vraiment. Voilà.
Il faut juste le définir.
Je rejoins Bérénice.
Oui, rapidement. Et Bruno voulait s'exprimer.
Rapidement, oui. En écoutant justement Valérie Létard à votre micro, Sylvain, lorsque vous lui posez la question, ça y est, c'est parti, il va y avoir une mission effectivement pour le statut de bailleur privé. Elle dit oui, il va y avoir une mission parlementaire qui, avec un rapport qui devrait être remis au mois de juin, pour donner de la perspective et de la visibilité aux bailleurs privés. Elle ne dit pas on va mettre en place un statut du bailleur privé. Et voilà. Donc, est-ce que c'est clair, c'est pas clair, je ne sais pas.
On a supprimé le Pinel, etc. On a supprimé quand même tous les moyens aux investisseurs privés qui louaient en longue durée.
Après, c'est à voir ce qui va être proposé. Parce que c'est vrai que quand on discute en fait, sur le statut de bailleur privé, je trouve un petit peu dommage des fois qu'on amène tout le débat sur la fiscalité uniquement, alors qu'on peut ouvrir beaucoup plus en fait, la notion de statut, de lien en fait, entre propriétaire et locataire. C'est plus ça. Qu'est-ce qui vous donnerait envie demain de redevenir investisseur? C'est un petit peu un discours beaucoup plus large que simplement de se dire est-ce qu'on met un amortissement et sous quelles conditions on doit le mettre? Parce que ça se limite un peu à ça, des fois, la conversation, c'est pourquoi ne pas mettre un amortissement sur le bâti comparable à ce qu'on pouvait avoir dans d'autres domaines?
Il y en a eu dans le passé un amortissement, c'est l'amortissement périssol.
Pierre-André Périssol. Ensuite, Bruno, tu voulais intervenir.
Oui, je voudrais parler un peu des effets d'aubaine. Que ça soit pour un bailleur ou que ça soit pour un propriétaire qui veut vendre son bien. Et je vais prendre l'exemple de la Bretagne à nouveau. La façade ouest. Mais en tout cas, la Bretagne, que vous connaissez bien.
À l'ouest, en effet.
Vous ne croyez pas qu'il est en train de se passer en Bretagne ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur il y a 40 ou 50 ans et que, parce qu'on a oublié l'agilité aussi de réaction qu'il faut, mais que, en fait, les personnes qui vendent à prix stratosphérique des biens le long du littoral, qui auront, eux, la chance d'avoir des réserves financières pour ensuite, etc. Mais après, le coup d'après, c'est la génération qui suit, qui déjà à peine aujourd'hui, parce qu'il y a une décorrélation, moi ça fait plus de 20 ans que je suis le secteur immobilier, ce qui m'a frappé quand même, c'est, on va dire, ces 7 dernières années, c'est la décorrélation pouvoir d'achat des agglomérations françaises avec leur population, qui n'était pas trop le cas auparavant. Au passage, il faut savoir de quoi on parle, hein. On donnait des chiffres, ce matin j'étais à une conférence de presse du groupe Mercure, 180 mètres carrés à Limoges, ça coûte 180 000 euros, hein, vous voyez, ça c'est des chiffres qui sont très précis, il faut 180 000 euros pour 180 mètres carrés.
Mais c'est Limoges,
ça me fait la transition, ce sont des, ce qu'on appelle les déserts.
Oui, mais il n'y a pas de boulot,
En l'absence de politique d'aménagement du territoire plus efficace, etc., il est tout à fait normal, je pense, et plus les contraintes de normes, dont les gens passent, des TPE, etc., je pense que le bailleur qui veut continuer à gagner le plus d'argent possible, parce que c'est quand même bien ça le but du jeu souvent, hein, il va aller faire du Airbnb, on n'a pas prononcé le mot encore, pas trop, mais il va aller faire du Airbnb.
Non, parce qu'il n'y a pas que Airbnb qui fait de la location saisonnière.
Non, mais bon,
L'objectif du bailleur, à ce stade aujourd'hui, je ne trouve pas que ce soit de faire le plus d'argent possible, c'est déjà le moins en perdre. Parce que c'est vrai qu'en tant que bailleur, on perd beaucoup d'argent. On est très taxé, on en gagne.
On perd en locatif, mais en plus-value, on ne perd pas.
Après, moi j'aimerais juste...
C'est pas d'acheteur aussi.
Allez-y. Non, je juste vous parler de quelque chose que peut-être vous avez en tête, parce que ça fait suite à des annonces récentes du gouvernement. On a parlé de mobiliser peut-être l'épargne des Français pour la guerre. Et alors moi, je me suis dit, c'est une aubaine pour l'immobilier, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui ont des livrets A remplis? Je rappelle que le livret A, c'est 29 950 euros qu'on peut mettre dessus. Il y a plein de Français qui ont leur livret A.
Ça sert à quoi?
Ça sert au logement social.
Oui, mais les Français...
C'est 1600 milliards.
Des Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, attendez...
En fait, on met l'argent au coffre dans la pierre.
Ben voilà, Et j'ai posé la question ce week-end aux agents immobiliers. Eh bien, figurez-vous qu'ils m'ont confirmé que depuis ces annonces, ils sont bombardés d'appels, justement parce que les Français veulent investir, protéger leur épargne et investir dans l'immobilier. Je me dis, est-ce que vous pensez que ça pourrait être, par exemple, quelque chose qui boosterait l'investissement immobilier?
Alors, je vais répondre aux deux questions. Je vais commencer par Bérénice, parce que par proximité. Effectivement, je l'ai entendu aussi. C'est-à-dire que localement, quand il y a eu effectivement cette crainte, justement, d'aller fonctionner dans l'épargne, ben, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, ben, nous, on va soit investir dans de l'or, soit dans la pierre. Voilà. Ça a été, en fait, des valeurs un peu refuge où on se dit, ben, au moins, ça, on l'aura. Donc, du coup, bon, je ne sais pas si on le prend positivement pour autant, parce que le contexte est quand même très lourd, quand même, actuellement, au niveau géopolitique. On ne peut pas en considérer que là, pour le coup, que ce soit un effet d'aubaine, pour autant, pour le, ouais. pour le secteur. Cependant, c'est vrai que ça reste une... comme quoi il y a toujours un attachement des Français en fait à la valeur patrimoine et à la valeur de la pierre qui pour eux est un bien transmissible et permet d'assurer et de garantir même un revenu pour le vieillissement, etc. Donc il y a cette notion là qui reste effectivement qui est moins captive parce que quand ça nous appartient c'est déterminé comme par un acte notarié, ça nous appartient à nous, alors que de l'épargne en fait c'est quelque chose qui peut effectivement être plus volatile selon eux. Donc du coup il y a cette crainte là. Pour revenir sur la situation bretonne, effectivement, de tout, tout le secteur immobilier breton, à un moment, on était effectivement avec des prix un petit peu en deçà, en fait, par rapport notamment aux zones littorales, que ce soit Pays Basque ou Côte d'Azur.
Puis après,
donc,
ça
c'est
s'est
vrai
envolé.
Qu'on s'est retrouvé en fait, avec, du fait, la période refuge, la Bretagne était une zone refuge pendant la période Covid, notamment. Beaucoup de gens sont venus chez nous, ont acquis des biens, parce qu'on n'était pas touchés de la même façon, je ne sais pas pourquoi, par la pandémie. Et du coup, il y a eu une explosion aussi des acquisitions à ce moment-là. Certains ont été revendus parce que c'était que transitoire. Mais il y a des gens qui viennent s'installer. On considère qu'on va avoir quasiment l'équivalent d'un département breton dans les années à venir chez nous s'installer pour aussi des questions climatiques. Une crainte aussi de la perte de ressources en eau qu'il y a pu avoir sur des événements de sécheresse dans le sud de la France. Les gens pensent qu'en venant en Bretagne, ils auront toujours de l'eau, alors que ce sont des eaux de ruissellement. On a très
quand
peu
je vais
de
en Bretagne, l'eau, ce n'est pas exactement ma préoccupation.
Oui, mais, ça sera, ouais, mais les gens pensent ça, mais à la fois, on peine aussi sur la ressource en eau parce qu'on n'a pas de nappe phréatique, parce qu'on est sur du sol granitique. Et donc, du coup, derrière, l'installation à venir de population créera aussi un risque sur nos approvisionnements en eau et en assainissement. Enfin, il faut quand même le savoir et que derrière, on est quand même entouré aussi de mer et qu'il faudra aussi la préserver. Donc, il y aura des installations à mettre en place. Mais effectivement, ça a été en fait un attrait pour nos territoires. Mmh. En plus, on avait un attrait économique qui était assez intéressant. On a quand même beaucoup d'entreprises qui permettent d'avoir de l'emploi chez nous. On a des lieux de vie fantastiques. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une augmentation du prix de l'immobilier qui fait qu'il est complètement décalé avec le pouvoir d'achat des Bretons actuellement sur le territoire. Donc, il y a un décalage qui font que les gens sont beaucoup plus à distance maintenant de leur emploi. Et du coup, on voit que on est passé de voir 20 km jusqu'à 60 km pour trouver un logement à prix abordable.
Mais pardonnez-moi, parce que vous oubliez quand même de parler de Airbnb.
Ah oui, après je vais revenir sur Airbnb.
Ça participe au fait que les gens ne peuvent pas se loger.
Bien sûr.
Et au renchérissement des prix aussi.
Effectivement, ouais. c'est l'un des combats justement, parce qu'effectivement Airbnb, quand vous faites votre rentabilité, entre guillemets, en une semaine, vous gagnez l'équivalent d'un loyer d'un mois sur une location près de chez nous, au bord de mer. Donc au bout du compte, ça fait qu'augmenter, parce que quand vous achetez un bien et qu'on vous dit, mais t'inquiète pas, tu le mets quelques semaines sur Airbnb et de toute façon, tu retrouveras ta renta. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et en plus, ça captait des petits logements qui étaient à vocation justement pour les ménages des fois les plus faibles et qui étaient en famille monoparentale. Donc, on a perdu énormément de petits logements à la faveur de Airbnb. Est-ce qu'ils vont revenir ? Je ne sais pas. Pour l'instant, à Quimper, 12 biens sont revenus à la location de longue durée depuis que le règlement a été pris par la maire de Quimper. Donc, on peut espérer effectivement qu'il y ait une prise de conscience justement de ce rôle.
Il faudra qu'on fasse comme à Saint-Malo, qu'on interdise la location saisonnière.
Alors, C'est une proposition qui est faite dans la proposition de loi. Chacun s'en saisit comme il veut, et que ça soit aussi sur les bâtis. On parlait tout à l'heure de Chamonix, et que du coup, va aussi mettre des zones dédiées à la résidence principale.
Moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est qu'on bassine les jeunes aujourd'hui, on les fait rêver en disant tu vas gagner un max de blé, en investissant dans l'immobilier, en faisant de la location saisonnière, avec 20%.
Mais c'est aussi une contrainte.
Avec 20% de renta, 25% de renta, il y a une espèce de discours, pour moi, que je trouve délétère, qui fait passer finalement l'immobilier comme étant un coût, alors que c'est un métier qu'on fait au quotidien. Moi, je trouve que tout ça n'alimente pas forcément la bonne idée.
Alors moi, j'ai un point de vue touristique. Moi, je suis contente de trouver des locations saisonnières quand je veux aller dans des zones. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait un impact sur le tourisme, par exemple?
Mais
il n'y a pas assez d'hôtels.
Non, mais Bérénice, il y a l'hôtel. Non, mais si aujourd'hui, on compensait le manque de logement qui est proposé en saisonnier avec une adaptation, il y aurait plus d'offres hôtelières.
Non, mais après, on est tous d'accord que ça ne va pas faire basculer l'ensemble du parc qui est proposé. Parce qu'au bout d'un moment, il reste toujours plus avantageux, notamment en termes de revenus, même si la fiscalité a changé. Les maires ne pourront pas, de toute façon, l'interdire complètement. Donc, il y aura toujours une offre, de toute façon, en location de courte durée. Et mon but n'était pas d'interdire, était de réguler. C'est-à-dire que chaque maire puisse estimer, parce que lui aussi, le maire, il a besoin de ce tourisme. C'est une économie locale.
C'est bien
donc,
sûr.
Il ne va pas non plus se tirer
et
une balle dans
touriste,
le pied en disant
moins
j'arrête
cher d'aller dans une location.
Ensuite, les hôtels, on
ça
revient du
cher les hôtels.
Se loger à l'hôtel pendant le MIPIM, c'est hors de prix. Donc on est bien content de pouvoir trouver des
effectivement,
des
c'est une offre alternative qui convient aussi au territoire.
J'ai vu que c'est les restaurateurs d'ailleurs les plus grands gagnants des locations saisonnières. C'est vrai, hein, ils gagnent, je crois, je ne sais plus, il y a eu des stats là-dessus, plusieurs. Ça se compte en milliards en une année.
Oui, et puis après, c'est tout un écosystème. Les musées, les villes, ils gagnent aussi. Que d'avoir du tourisme, il faut le voir comme tel. C'est une attractivité, c'est une vitrine pour leur territoire qui est nécessaire et c'est de l'emploi derrière. Donc il ne faut pas penser que c'est un dispositif simplement pour interdire. C'est fait pour réguler, pour trouver un équilibre, parce que vous ne pouvez pas avoir de tourisme si vous n'avez pas de salariés aussi qui animent ces territoires. Donc à un moment, il fallait trouver un équilibre pour ne pas chasser non plus les salariés au-delà des villes.
Alors, on n'a plus le temps. Non, je suis désolé, on n'a plus le temps. On a déjà largement explosé le timing. Je suis désolé. On refera davantage.
Suite demain.
Je suis bavarde.
Je connais un pro de la radio qui m'avait dit un jour, le meilleur ami de la radio, c'est la frustration. Voilà, quand on a l'impression de ne pas en avoir assez, on y revient. Voilà,
ça fait deux fois qu'on me l'a fait.
Voilà, c'est signé Ricala.
C'est
voilà,
qu'on devient politique.
Donc ça veut dire que vous êtes condamné, ma chère Anaïg, à revenir sur notre plateau, vous prêter au jeu des questions. Voilà, c'était un très très bon numéro du grand jury de la presse immobilière. Je voudrais qu'on remercie notre ami Anthony Donnet. On vous retrouve le mois prochain, Anthony, avec grand plaisir. Merci d'avoir participé à ce numéro du grand jury. Merci à Isabelle,
merci
notre
à
présidente
vous.
De la Gibat, journaliste, auteur, essayiste. Halte à la spéculation sur le logement, le livre qui a été commis par Isabelle et qui est, d'ailleurs qu'on peut acheter dans les bacs. Hein, il est disponible.
Il est disponible dans toutes les librairies.
Absolument.
Les bonnes librairies.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, ça suscite le débat. C'est le gros avantage de notre amie Isabelle. Un immense merci, bien évidemment, à notre Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point, un hebdomadaire qui parle de l'immobilier, surtout beaucoup d'architecture. Merci, mon Bruno.
Merci.
Voilà, on se retrouve le mois prochain avec beaucoup de plaisir. Un immense merci à notre Cala National, Eric. Merci, journaliste aujourd'hui à Immo Week, qui fait de la radio. Vous revenez le mois prochain?
Avec plaisir.
Alors, on vous accueillera toujours avec beaucoup de plaisir.
C'est
et en plus, vous êtes un peu ici sur vos terres. Et bien sûr, on ne peut pas clôturer cette émission avec les journalistes sans notre rédactrice en chef, Bérénice Deville Florio. Vous êtes flamboyante ce soir.
Ah, en rédac chef, physiquement, vous avez gagné quand même.
Oui, on a deux rédacteurs. La succession fut assurée et bien sûr, un triomphe avec notre invité qui est venu sur le plateau, député de la première circonscription du Finistère, présidente sémillante du Conseil national de l'habitat. Merci Anaïg Lemeur.
Merci beaucoup Sylvain.
C'était un très très bon moment, je vous l'ai dit. Moi, je suis preneur de la marque de vos lunettes. Voilà, j'en rêve. Voilà, merci en tout cas. On vous revoit bien sûr très prochainement. Vous avez beaucoup beaucoup à faire et à l'Assemblée et dans vos consultations. Pour rappeler que Valérie Létard consulte beaucoup sur la question du DPE. Vrai sujet. On va suivre cela avec beaucoup de vigilance. On va se retrouver, les amis, le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Jury de la presse immobilière. Le podcast, bien sûr, il est à récupérer sur l'application de Radio Immo, mais pas que. Il suffit simplement de mettre une requête et vous arrivez tout de suite. Et d'ailleurs, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous manifester à la rédaction de Radio Immo. Prenez soin de vous. Bonne soirée et on se retrouve le mois prochain.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.